LH, suivie de Coco, nouvelle extraite des contes du jour et de la nuit, Guy de Maupassant. Un lâche. On l'appelait dans le monde le beau signol. Il se nommait le vicomte Gontran Joseph de Signol. Orphelin et maître d'une fortune suffisante, il faisait figure, comme on dit. Il avait de la tournure et de l'allure, assez de paroles pour faire croire à de l'esprit, une certaine grâce naturelle, un air de noblesse et de fierté, la moustache brave et l'œil doux, ce qui plaît aux femmes. Il était demandé dans les salons, recherché par les valseuses, et il inspirait aux hommes cette inimitié souriante qu'on a pour les gens de figure énergique. On lui avait soupçonné quelques amours capables de donner fort bonne opinion d'un garçon. Il vivait heureux, tranquille, dans le bien-être moral le plus complet. On savait qu'il tirait bien l'épée et mieux encore le pistolet. « Quand je me battrai, disait-il, je choisirai le pistolet. Avec cette arme, je suis sûr de tuer mon homme. » Or, un soir, comme il avait accompagné au théâtre deux jeunes femmes de ses amies, escortées d'ailleurs de leurs époux, il leur offrit, après le spectacle, de prendre une glace chez Tortoni. Ils étaient entrés depuis quelques minutes quand il s'aperçut qu'un monsieur assis à une table voisine regardait avec obstination une de ses voisines. Elle semblait gênée, inquiète, baissait la tête. Enfin, elle dit à son mari « Voici un homme qui me dévisage. Moi, je ne le connais pas. Le connais-tu ?» Le mari, qui n'avait rien vu, leva les yeux mais déclara « Non, pas du tout. » La jeune femme reprit, moitié souriante, moitié fâchée. « C'est fort gênant, cet individu me gâte ma glace. » Le mari haussa les épaules. « Baste, n'y fais pas attention, s'il fallait s'occuper de tous les insolents qu'on rencontre, on n'en finirait pas. » Mais le vicomte s'était levé brusquement. Il ne pouvait admettre que cet inconnu gâtât une glace qu'il avait offerte. C'était à lui que l'injure s'adressait, puisque c'était par lui et pour lui que ses amis étaient entrés dans ce café. L'affaire, donc, ne regardait que lui. Il s'avança vers l'homme et lui dit « Vous avez, monsieur, une manière de regarder ces dames que je ne puis tolérer. Je vous prie de vouloir bien cesser cette insistance. » L'autre répliqua « Vous allez me ficher la paix, vous ?» Le vicomte déclara, les dents serrées, « Prenez garde, monsieur, vous allez me forcer à passer la mesure. » Le monsieur ne répondit qu'à un mot ordurier qui sonna d'un bout à l'autre du café et fit comme par l'effet d'un ressort accomplir à chaque consommateur un mouvement brusque. Tous ceux qui tournaient le dos se retournèrent, tous les autres levèrent la tête. Trois garçons pivotèrent sur leurs talons comme des toupies. Les deux dames du comptoir eurent un sursaut, puis une conversion du torse entier comme si elles eussent été deux automates obéissant à la même manivelle. Un grand silence s'était fait. Puis, tout à coup, un bruit sec claqua dans l'air. Le vicomte avait giflé son adversaire. Tout le monde se leva pour s'interposer. Des cartes furent échangées. Quand le vicomte fut rentré chez lui, il marcha pendant quelques minutes à grands pas vifs à travers sa chambre. Il était trop agité pour réfléchir à rien. Une seule idée planait sur son esprit. Un duel. Sans que cette idée éveillât encore en lui une émotion quelconque. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il s'était montré ce qu'il devait être. On en parlerait, on l'approuverait, on le féliciterait. Il répétait à voix haute, parlant comme on parle dans les grands troubles de pensée. « Quel brute cet homme !» Puis, il s'assit et se mit à réfléchir. il lui fallait dès le matin trouver des témoins. Qui choisirait-il ? Il cherchait les gens les plus posés et les plus célèbres de sa connaissance. Il prit enfin le marquis de la Tour Noire et le colonel Bourdin, un grand seigneur et un soldat, c'était fort bien. Il s'aperçut qu'il avait soif et il but, coup sur coup, 3 verres d'eau. Puis, il se remit à marcher. Il se sentait plein d'énergie. En se montrant crâne, résolu à tout, et en exigeant des conditions rigoureuses, dangereuses, en réclamant un duel sérieux, très sérieux, terrible, son adversaire reculerait probablement et ferait des excuses. Il reprit la carte qu'il avait tirée de sa poche et jetée sur sa table, et il la relut, comme il l'avait déjà lu, au café, d'un coup d'œil et dans le fiacre, à la lueur de chaque bec de gaz en revenant. Georges Lamille, 51, rue Moncey. Rien de plus. Il examinait ces lettres assemblées qui lui paraissaient mystérieuses, pleines de sens confus. Georges Lamille. Qui était cet homme ? Que faisait-il ? Pourquoi avait-il regardé cette femme d'une pareille façon ? N'était-ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vînt troubler ainsi votre vie, tout d'un coup, parce qu'il lui avait plu de fixer insolemment les yeux sur une femme ? Et le vicomte répéta encore une fois, à haute voix, « Quelle brute !» Puis il demeura immobile, debout, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui contre ce morceau de papier, une colère haineuse où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Il prit un canif ouvert sous sa main et le piqua au milieu du nom imprimé comme s'il eût poignardé quelqu'un. Donc, il fallait se battre. Choisirait-il l'épée ou le pistolet, car il se considérait bien comme l'insulté. Avec l'épée, il risquait moins, mais avec le pistolet, il avait chance de faire reculer son adversaire. Il est bien rare qu'un duel à l'épée soit mortel, une prudence réciproque empêchant les combattants de se tenir en garde assez près l'un de l'autre pour qu'une pointe entre profondément. Avec le pistolet, il risquait sa vie sérieusement, mais il pouvait aussi se tirer d'affaire avec tous les honneurs de la situation et sans arriver à une rencontre. Il prononça « Il faut être ferme, il aura peur. » Le son de sa voix le fit tressaillir et il regarda autour de lui. Il se sentait fort nerveux. Il but encore un verre d'eau puis commença à se dévêtir pour se coucher. Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. Il pensait « J'ai toute la journée de demain pour m'occuper de mes affaires. » Dormons d'abord afin d'être calme. Il avait très chaud dans ses draps, mais il ne pouvait parvenir à s'assoupir. Il se tournait, il se retournait, demeurait 5 minutes sur le dos, puis se plaçait sur le côté gauche, puis se roulait sur le côté droit. Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit. Est-ce que j'aurais peur ? Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre ? Quand la pendule allait sonner, le petit grincement du ressort qui se dresse lui faisait faire un sursaut. Et il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer ensuite pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé. Il se mit à raisonner avec lui-même sur la possibilité de cette chose. Aurais-je peur ? Non ! Certes, il n'aurait pas peur, puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait cette volonté bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément troublé qu'il se demanda « Peut-on avoir peur malgré soi ?» Et ce doute l'envahit, cette inquiétude, cette épouvante. Si une force plus puissante que sa volonté, dominatrice, irrésistible, le domptait, qu'arriverait-il ? Oui, que pouvait-il arriver ? Certes, il irait sur le terrain puisqu'il voulait y aller, mais s'il tremblait, Mais s'il perdait connaissance ? Et il songea à sa situation, à sa réputation, à son nom. Et un singulier besoin le prit tout à coup de se relever pour se regarder dans la glace. Il ralluma sa bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le verre poli, il se reconnut à peine. Et il lui sembla qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes, et il était pâle, certes. Il était pâle, très pâle. Il restait debout en face du miroir. Il tira la langue comme pour constater l'état de sa santé, et tout d'un coup, cette pensée entra en lui à la façon d'une balle. Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. Et son cœur se remit à battre furieusement. Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. Cette personne en face de moi, ce moi que je vois dans cette glace, ne sera plus. Comment ? Me voici, je me regarde, je me sens vivre, et dans 24 heures, je serai couché dans ce lit, mort, les yeux fermés, froid, inanimé, disparu. Il se retourna vers la couche et se vit distinctement étendu sur le dos, dans ces mêmes draps qu'il venait de quitter. Il avait ce visage creux qu'ont les morts et cette mollesse des mains qui ne remueront plus. Alors, il eut peur de son lit, et pour ne plus le regarder, il passa dans son fumoir. Il prit machinalement un cigare, l'alluma et se remit à marcher. Il avait froid. Il alla vers la sonnette pour réveiller son valet de chambre, mais il s'arrêta, la main levée vers le cordon. « Cet homme va s'apercevoir que j'ai peur. » Et il ne sonna pas. Il fit du feu. Ses mains tremblaient un peu, d'un frémissement nerveux quand elles touchaient les objets. Sa tête s'égarait, ses pensées troubles devenaient fuyantes, brusques, douloureuses. Une ivresse envahissait son esprit comme s'il eût bu. Et sans cesse, il se demandait « Que vais-je faire ? Que vais-je devenir ?» Tout son corps vibrait, parcouru de tressaillements saccadés. Il se releva et, s'approchant de la fenêtre, ouvrit les rideaux. Le jour venait, un jour d'été. Le ciel rose faisait rose la ville, les toits et les murs. Une grande tombée de lumière tendue, pareille à une caresse du soleil levant, enveloppait le monde réveillé. Et, avec cette lueur, un espoir gai, rapide, brutal, envahit le cœur du vicomte. Était-il fou de s'être laissé ainsi terrasser par la crainte, avant même que rien fût décidé, avant que ses témoins eussent vu ceux de ce Georges Lamille, avant qu'il sût encore s'il allait seulement se battre? Il fit sa toilette, s'habilla et sortit d'un pas ferme. Il se répétait tout en marchant. « Il faut que je sois énergique, très énergique. Il faut que je prouve que je n'ai pas peur. » Ses témoins, le marquis et le colonel, se mirent à sa disposition et après lui avoir serré énergiquement les mains, discutèrent les conditions. Le colonel demanda « Vous voulez un duel sérieux ?» Le vicomte répondit « Très sérieux. » Le marquis reprit « Vous tenez au pistolet ? Oui. Nous laissez-vous libre de régler le reste ? Le vicomte articula d'une voix sèche, saccadée. 20 pas. Au commandement, en levant l'arme au lieu de l'abaisser, échange de balles jusqu'à blessure grave. Le colonel déclara d'un ton satisfait. « Ce sont des conditions excellentes, vous tirez bien, toutes les chances sont pour vous. » Et ils partirent. Le vicomte rentra chez lui pour les attendre. Son agitation, apaisée un moment, grandissait maintenant de minute en minute. Il se sentait le long des bras, le long des jambes, dans la poitrine, une sorte de frémissement, de vibration continue. Il ne pouvait tenir en place ni assis ni debout. Il n'avait plus dans la bouche une apparence de salive et il faisait à tout instant un mouvement bruyant de la langue comme pour la décoller de son palais. Il voulut déjeuner, mais il ne put manger. Alors l'idée lui vint de boire pour se donner du courage et il se fit apporter un carafon de rhum dont il avala, coup sur coup, 6 petits verres. Une chaleur, pareille à une brûlure, l'envahit, suivie aussitôt d'un étourdissement de l'âme. Il pensa « Je tiens le moyen. Maintenant, ça va bien. » Mais au bout d'une heure, il avait vidé le carafon et son état d'agitation redevenait intolérable. Il sentait un besoin fou de se rouler par terre, de crier, de mordre. Le soir tombait. Un coup de timbre lui donna une telle suffocation qu'il n'eut pas la force de se lever pour recevoir ses témoins. Il n'osait même plus leur parler, leur dire bonjour, prononcer un seul mot, de crainte qu'ils ne devinassent tout à l'altération de sa voix. Le colonel prononça « Tout est réglé aux conditions que vous avez fixées. Votre adversaire réclamait d'abord les privilèges d'offensé, mais il a cédé presque aussitôt et a tout accepté. Ces témoins sont 2 militaires. » Le vicomte prononça « Merci. » Le marquis reprit « Excusez-nous si nous ne faisons qu'entrer et sortir, mais nous avons encore à nous occuper de 1000 choses. » Il faut un bon médecin, puisque le combat ne cessera qu'après blessure grave, et vous savez que les balles ne badinent pas. Il faut désigner l'endroit, à proximité d'une maison, pour y porter le blessé si c'est nécessaire, etc. Enfin, nous en avons encore pour 2 ou 3 heures. Le vicomte articula une seconde fois. « Merci. » Le colonel demanda. « Vous allez bien ? Vous êtes calme ? » ?»« Oui, très calme. Merci. » Les deux hommes se retirèrent. Quand il se sentit seul de nouveau, il lui sembla qu'il devenait fou. Son domestique ayant allumé les lampes, il s'assit devant sa table pour écrire des lettres. Après avoir tracé, au haut d'une page, « Ceci est mon testament », il se releva d'une secousse et s'éloigna, se sentant incapable d'unir 2 idées, de prendre une résolution, de décider quoi que ce fût. Ainsi, il allait se battre. Il ne pouvait plus éviter cela. Que se passait-il donc en lui? Il voulait se battre, il avait cette intention et cette résolution fermement arrêtée, et il sentait bien, malgré tout l'effort de son esprit et toute la tension de sa volonté, qu'il ne pourrait même conserver la force nécessaire pour aller jusqu'au lieu de la rencontre. Il cherchait à se figurer le combat, son attitude à lui et la tenue de son adversaire. De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient dans sa bouche avec un petit bruit sec. Il voulut lire et il prit le code du duel de Château-Villard. Puis, il se demanda. Mon adversaire a-t-il fréquenté les tirs? Est-il connu? Est-il classé? Comment le savoir? Il se souvint du livre du baron de Vaux sur les tireurs au pistolet et il le parcourut d'un bout à l'autre. Georges Lamille n'y était pas nommé. Mais, cependant, si cet homme n'était pas un tireur, il n'aurait pas accepté immédiatement cette arme dangereuse et ses conditions mortelles. Il ouvrit en passant une boîte de Gastine Rainette, posée sur un guéridon, et prit un des pistolets, puis il se plaça comme pour tirer et leva le bras. Mais il tremblait des pieds à la tête, et le canon remuait dans tous les sens. Alors il se dit « C'est impossible. Je ne puis me battre ainsi. » Il regardait au bout du canon ce petit trou noir et profond qui crache la mort. Il songeait au déshonneur, au chuchotement dans les cercles, au rire dans les salons, au mépris des femmes, aux allusions des journaux, aux insultes que lui jetteraient les lâches. Il regardait toujours l'arme et levant le chien, il vit soudain une amorce briller dessous comme une petite flamme rouge. Le pistolet était demeuré chargé, par hasard, par oubli. et il éprouva de cela une joie confuse, inexplicable. S'il n'avait pas, devant l'autre, la tenue noble et calme qu'il faut, il serait perdu à tout jamais. Il serait taché, marqué d'un signe d'infamie, chassé du monde. Et cette tenue calme et crâne, il ne l'aurait pas. Il le savait, il le sentait. Pourtant, il était brave puisqu'il voulait se battre. Il était brave puisque la pensée qu'il l'effleura ne s'acheva même pas dans son esprit. Mais, ouvrant la bouche toute grande, il s'enfonça brusquement jusqu'au fond de la gorge le canon de son pistolet et il appuya sur la gâchette. Quand son valet de chambre accourut, attiré par la détonation, il le trouva mort, sur le dos. Un jet de sang avait éclaboussé le papier blanc sur la table et faisait une grande tache rouge au-dessous de ces quatre mots. Ceci est mon testament. Coco. Dans tout le pays environnant, on appelait la ferme des Lucas la métairie. On aurait su dire pourquoi. Les paysans, sans doute, attachaient à ce mot métairie une idée de richesse et de grandeur. Car cette ferme était assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la contrée. La cour, immense, entouré de cinq rangs d'arbres magnifiques pour abriter contre le vent violent de la plaine les pommiers trapus et délicats, enfermait de longs bâtiments couverts en tuiles pour conserver les fourrages et les grains, de belles étables bâties en silex, des écuries pour 30 chevaux et une maison d'habitation en briques rouges qui ressemblait à un petit château. Les fumiers étaient bien tenus. Les chiens de garde habitaient en des niches, un peuple de volailles circulait dans l'herbe haute. Chaque midi, 15 personnes, maîtres, valets et servantes, prenaient place autour de la longue table de cuisine où fumait la soupe dans un grand vase de faïence à fleurs bleues. Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et moutons étaient grasses, soignées et propres. Et maître Lucas, un grand homme qui prenait du ventre, faisait sa ronde trois fois par jour, veillant sur tout et pensant à tout. On conservait, par charité, dans le fond de l'écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse voulait nourrir jusqu'à sa mort naturelle, parce qu'elle l'avait élevé, gardé toujours, et qu'il lui rappelait des souvenirs. Un goujat de 15 ans, nommé Isidore Duval, et appelé plus simplement Zidore, prenait soin de cet invalide, lui donnait pendant l'hiver sa mesure d'avoine et son fourrage et devait aller, quatre fois par jour, en été, le déplacer dans la côte où on l'attachait afin qu'il eût en abondance de l'herbe fraîche. L'animal, presque perclus, levait avec peine ses jambes lourdes, grosses des genoux et enflées au-dessus des sabots. Ses poils, qu'on n'étriait plus jamais, avait l'air de cheveux blancs, et des cils très longs donnaient à ses yeux un air triste. Quand Zidore le menait à l'herbe, il lui fallait tirer sur la corde tant la bête allait lentement. Et le gars, courbé, haletant, jurait contre elle, s'exaspérant d'avoir à soigner cette vieille rosse. Les gens de la ferme, voyant cette colère du goujat contre Coco, s'en amusaient, parlaient sans cesse du cheval à Zidore pour exaspérer le gamin. Ses camarades le plaisantaient. On l'appelait dans le village Coco Zidore. Le gars rageait, sentant naître en lui le désir de se venger du cheval. C'était un maigre enfant, haut sur jambes, très sale, coiffé de cheveux roux, épais, durs et hérissés. Il semblait stupide, parler en bégayant avec une peine infinie, comme si les idées n'eussent pu se former dans son âme épaisse de brute. Depuis longtemps déjà, il s'étonnait qu'on gardât Coco, s'indignant de voir perdre du bien pour cette bête inutile. Du moment qu'elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir, il lui semblait révoltant de gaspiller de l'avoine qui coûtait si cher pour ce bidet paralysé. Et souvent même, malgré les ordres de Maître Lucas, il économisait sur la nourriture du cheval, ne lui versant qu'une demi-mesure, ménageant sa litière et son foin. Et une haine grandissait en son esprit confus d'enfant, une haine de paysan rapace, de paysan sournois, féroce, brutal et lâche. Lorsque revint l'été, il lui fallut aller remuer la bête dans sa côte. C'était loin. Le goujat, plus furieux chaque matin, partait de son palour à travers les blés. Les hommes, qui travaillaient dans les terres, lui criaient par plaisanterie « Hé ! Zidore, tu feras mes compliments à Coco !» Il ne répondait point, mais il cassait en passant une baguette dans une haie, et dès qu'il avait déplacé la tâche du vieux cheval, il le laissait se remettre à brouter, puis, approchant traîtreusement, il lui cinglait les jarrets. L'animal essayait de fuir, de ruer, d'échapper aux coups, et il tournait au bout de sa corde comme s'il eût été enfermé dans une piste. Et le gars le frappait avec rage, courant derrière, acharné, les dents serrées par la colère. Puis, il s'en allait lentement, sans se retourner, tandis que le cheval le regardait partir de son œil de vieux, les côtes saillantes, essoufflé d'avoir trotté. Et il ne rebaissait vers l'herbe sa tête osseuse et blanche qu'après avoir vu disparaître au loin la blouse bleue du jeune paysan. Comme les nuits étaient chaudes, on laissait maintenant Coco coucher dehors, là-bas, au bord de la ravine, derrière le bois. Zidore seul allait le voir. L'enfant s'amusait encore à lui jeter des pierres. Il s'asseyait à 10 pas de lui sur un talus et il restait là une demi-heure, lançant de temps en temps un caillou tranchant au bidet, qui demeurait debout, enchaîné devant son ennemi et le regardant sans cesse, sans oser paître, avant qu'il fût reparti. Mais toujours cette pensée restait plantée dans l'esprit du goujat. Pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien ? Il lui semblait que cette misérable rosse volait le manger des autres, volait l'avoir des hommes, le bien du bon Dieu, le volait même aussi lui, Zidore, qui travaillait. Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminua la bande de pâturage qu'il lui donnait en avançant le piquet de bois où était fixée la corde. La bête jeûnait, maigrissait, dépérissait. Trop faible pour casser son attache, elle tendait la tête vers la grande herbe verte et luisante, si proche et dont l'odeur lui venait sans qu'elle pût y toucher. Mais un matin, Zidore eut une idée. C'était de ne plus remuer Coco. Il en avait assez d'aller si loin pour cette carcasse. Il vint cependant pour savourer sa vengeance. La bête, inquiète, le regardait. Il ne la battit pas ce jour-là. Il tournait autour, les mains dans les poches. Même, il fit mine de la changer de place, mais il renfonça le piquet juste dans le même trou et il s'en alla, enchanté de son invention. Le cheval, le voyant partir, hennit pour le rappeler, mais le goujat se mit à courir, le laissant seul, tout seul, dans son vallon, bien attaché et sans un brin d'herbe à portée de la mâchoire. Affamé, il essaya d'atteindre la grasse verdure qu'il touchait du bout de ses naseaux. Il se mit sur les genoux, tendant le cou, allongeant ses grandes lèvres baveuses. Ce fut en vain. Tout le jour, elle s'épuisa, la vieille bête, en efforts inutiles, en efforts terribles. La faim la dévorait, rendue plus affreuse par la vue de toute la verte nourriture qui s'étendait par l'horizon. Le goujat ne revint point ce jour-là. Il vagabonda par les bois pour chercher des nids. Il reparut le lendemain. Coco, exténué, s'était couché. Il se leva en apercevant l'enfant, attendant enfin d'être changé de place. Mais le petit paysan ne toucha même pas au maillet jeté dans l'herbe. Il s'approcha, regarda l'animal, lui lança dans le nez une motte de terre qui s'écrasa sur le poil blanc et il repartit en sifflant. Le cheval resta debout tant qu'il put l'apercevoir encore. Puis, sentant bien que ses tentatives pour atteindre l'herbe voisine seraient inutiles, il s'étendit de nouveau sur le flanc et ferma les yeux. Le lendemain, Zidore ne vint pas. Quand il approcha le jour suivant, de Coco toujours étendu, il s'aperçut qu'il était mort. Alors, il demeura debout, le regardant, content de son œuvre, étonné en même temps que ce fût déjà fini. Il le toucha du pied, leva une de ses jambes, puis laissa retomber, s'assit dessus, et resta là, les yeux fixés dans l'herbe et sans penser à rien. Il revint à la ferme, mais il ne dit pas l'accident, car il voulait vagabonder encore aux heures où, d'ordinaire, il allait changer de place le cheval. Il alla le voir le lendemain. Des corbeaux s'envolèrent à son approche. Des mouches innombrables se promenaient sur le cadavre et bourdonnaient alentour. En rentrant, il annonça la chose. La bête était si vieille que personne ne s'étonna. Le maître dit à deux valets « Prenez vos pelles, vous ferez un trou là où ce qu'il est. » Et les hommes enfouirent le cheval, juste à la place où il était mort de faim. Et l'herbe poussa dru, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps.